Bonjour et bienvenue dans le studio de Mediapart pour ce nouveau numéro de Un Monde à Vif qui nous emmène aujourd'hui au Sahel. La France y est présente militairement depuis 2013 et le lancement de l'opération Serval. Depuis 2014, cette opération est devenue l'opération Barkhane. C'est la plus grosse opération militaire de la France à l'étranger depuis la guerre d'Algérie. Et on parle aujourd'hui de plus en plus de sa réduction, voire de son retrait. Alors si tel était le cas, ce serait un retrait avec un certain goût d'échec, puisque les conditions de sécurité continuent de se dégrader sur place pour les civils, en particulier au Mali. Les forces armées des pays de la région que la France était supposée former sont régulièrement accusées d'exactions, également contre les civils, et les groupes armés djihadistes que les soldats français étaient partis combattre n'ont de toute évidence pas disparu, bien au contraire. Alors, le retrait annoncé de Barkhane ressemble fortement à un échec, mais de qui et de quoi exactement ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Au-delà de ce qui ressemble à un échec militaire, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un échec de la politique étrangère française dans la région, d'un échec des chefs d'État des pays de la région, voire même est-ce qu'il ne s'agit pas d'un échec de notre capacité à analyser et à comprendre ces groupes armés djihadistes. On va tenter de répondre à ces questions avec deux invités aujourd'hui. Niagale Bagayoko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, docteur en relations internationales, mais aussi praticienne, puisque vous présidez le African Security Sector Network, qui est un réseau d'experts et d'organisations travaillant sur le secteur de la sécurité sur le continent africain. Je précise que nous ne portons pas de masque, puisque nous sommes à 2 mètres de distance et que la pièce est aérée en permanence. Yvan Guichawa, vous êtes avec nous en visio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, vous êtes enseignant-chercheur en analyse des conflits à la Brussels School of International Studies de l'Université de Kent au Royaume-Uni, spécialiste du Sahel et des mouvements armés qui opèrent. Alors peut-être pour commencer, une question un petit peu d'actualité. On évoque beaucoup ces derniers mois et ces dernières semaines une réduction imminente des effectifs de l'opération Barkhane, voire le début d'un retrait. Est-ce que ça va être le cas ? Et surtout, pourquoi cette annonce semble si laborieuse ? Puisque, encore une fois, ça fait des semaines qu'on dit que ça va être annoncé, pas annoncé, qu'on reporte un peu la date. Peut-être Yvan Guichawa pour commencer.
Alors, oui, effectivement, il semblerait que cette décision soit plus ou moins actée et qu'il faut choisir le bon moment pour l'annoncer. Le bon moment, c'est peut-être le prochain sommet du G5 Sahel qui permettra de faire passer cette décision comme une décision choisie par l'ensemble des partenaires de la zone. Donc, c'est toujours mieux, en termes d'image, de mutualiser un petit peu les décisions. Et puis, pour ce qui est de l'ampleur du retrait ou de la réduction de la présence militaire au Sahel, il y a des chiffres qui circulent. On parle de 500 à 600 personnes en moins, ce qui correspond en fait au surcroît de présence militaire qui avait été introduit immédiatement après le sommet de Pau il y a à peu près un an.
Oui, donc c'est une réduction à minima pour le moment. Il faut préciser peut-être que le G5 Sahel, c'est donc une organisation qui regroupe les 5 États concernés par cette opération Barkhane, à savoir Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Ce sommet dont vous dites qu'il sera peut-être l'occasion d'acter cette réduction des effectifs, je crois qu'il va se tenir en février, c'est ça ?
Mi-février, d'après
voilà
ce qu'on entend.
Et alors peut-être sur cette deuxième partie de la question, pourquoi est-ce que c'est si laborieux, pourquoi c'est si difficile d'annoncer un désengagement progressif ? Ça fait des semaines, voire des mois qu'on en parle.
Alors ça fait des semaines, pas des mois, parce que je pense qu'il est important de souligner le fait qu'il y a eu une évolution récente de la position des plus hautes autorités françaises, à commencer par celle du chef d'état-major des armées qui s'est exprimé pour commencer à préparer cette idée de retrait partiel. Donc ça, c'est un premier élément. Je dirais que c'est depuis le début du mois de décembre que ces bruits ont l'air de se confirmer. Par ailleurs, comme l'indique Yvan, en effet, la concertation et l'affichage des alliances qui sont nouées dans le cadre de la présence au Sahel est absolument fondamental pour la France. Donc il est très difficile d'annoncer de manière unilatérale un retrait sans consultation, bien que les visites récentes de 3 chefs d'État sahéliens aient laissé penser que que des discussions ont d'ores et déjà eu lieu en amont de ce sommet de N'Djamena qui aura lieu en février.
D'accord, donc une annonce qui est aussi tenue, on comprend, par des impératifs diplomatiques, finalement. Alors, si on s'attarde d'abord sur l'hypothèse d'un échec militaire, puisque c'est la première partie de cet échec qu'on va essayer de diagnostiquer aujourd'hui ensemble, tout simplement, est-ce qu'on peut dire, et selon quels critères, que Barkhane a été ou est un échec d'un point de vue militaire pour la France, Niagale Bagayoko, par exemple?
Alors, je pense qu'il est difficile de parler d'échec militaire. D'abord, parce qu'il y a différentes échelles. Si on considère les opérations d'un point de vue tactique, on ne peut pas considérer qu'il y a une défaite de l'armée française. Ce qu'on peut constater, c'est que les objectifs de contenir et d'éliminer la progression des groupes djihadistes n'ont clairement pas été atteints. Et ils n'ont pas été atteints d'un point de vue opérationnel, mais on s'aperçoit aussi que les objectifs militaires fixés n'ont pas suffisamment été inscrits dans une approche politique et stratégique. C'est-à-dire que l'objectif affiché le plus clairement est rappelé, hein, d'ailleurs, par la ministre des Armées lors de son audition au Sénat, qui est de détruire et de réduire la capacité des groupes armés terroristes, il ne s'agit pas d'un objectif politique. Dans quel projet exactement s'inscrit cette intervention militaire et au service de quoi cet instrument a-t-il été mobilisé? C'est à cette question que les autorités françaises ont du mal à répondre. Et c'est, à mon avis, de ce point de vue-là qu'il y a échec, parce que sur le théâtre sahélien, on voit bien que la présence française n'a pas permis d'empêcher l'aggravation de la situation, non pas seulement sur le front de la lutte antiterroriste, mais plus largement de la sécurité des populations notamment.
Et on y reviendra sur cette question des objectifs politiques auxquels adossait le militaire. Alors, une manière de faire le bilan de Barkhane, c'est de se pencher sur ces groupes armés djihadistes que les soldats français sont allés combattre. Et pour ça, je vous propose qu'on s'appuie sur une carte qui nous montre les zones d'influence respectives de ces groupes armés djihadistes. Alors, avec les plus connus d'entre eux, entre guillemets, qui sont l'État islamique au Grand Sahara, qu'on voit, si je ne me trompe pas, au sud-est du pays, le pays au milieu principal, c'est le Mali, et puis ces groupes armés djihadistes débordent sur les frontières du Niger et du Burkina Faso. Et donc les plus connus entre guillemets de ces groupes, ce sont l'État islamique au Grand Sahara et Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui se trouve au nord-nord-ouest. Alors cette carte, elle date de 2019, puisque pour tout dire, c'est assez difficile de cartographier au quotidien leur évolution, mais justement je saisis cette occasion. Peut-être Yvan Guichawa, qu'est-ce qui a changé depuis, tant dans peut-être leur sphère d'influence géographique et puis peut-être aussi dans les guerres qu'ils se mènent entre eux, puisque c'est un autre aspect de la situation sur place, c'est que ces groupes ne se battent pas que contre les forces maliennes et les Français, mais aussi entre eux.
Oui, alors en fait, cette carte, elle représente des zones d'influence des mouvements armés et pas nécessairement des zones de contrôle. L'influence, ça veut dire qu'on peut mettre la pression sur les populations, ça veut dire qu'on peut circuler, mener des attaques contre les forces étatiques ou les forces étrangères, mais ça ne veut pas dire qu'on contrôle nécessairement l'ensemble des territoires et tout ce qui s'y passe. Donc ça, c'est une des premières remarques. Et puis, la deuxième remarque, donc cette carte a maintenant un peu plus d'un an et il y a eu des évolutions depuis. Peut-être une des évolutions principales, c'est un petit peu la disparition de Ansarul Islam, donc qui était le mouvement djihadiste né initialement au Burkina Faso, mais qui a été depuis un petit peu écartelé, certains membres ayant rejoint la coalition affiliée à Al-Qaïda, donc le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et puis d'autres membres de Ansarul Islam sont allés du côté de l'État islamique au Grand Sahara. Donc Ansarul Islam a un petit peu disparu de la carte, même si ses membres se sont redistribués dans les deux grandes entités dominantes que sont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique au Grand Sahara. Et puis l'autre élément, c'est effectivement ce que vous avez mentionné, des batailles fratricides entre le mouvement, la coalition affiliée à Al-Qaïda et la coalition affiliée à l'État islamique. Et dans ce bras de fer, on peut dire que la branche affiliée à Al-Qaïda a pris le part sur celle affiliée à l'État islamique au Grand Sahara, qui désormais s'est reconcentrée géographiquement plutôt vers la frontière Burkina Faso, Mali et Niger, et puis qui descend peut-être un petit peu vers la frontière béninoise, et puis qui a aussi une sorte de profondeur géographique, potentiellement avec la province ouest africaine de l'État islamique, dont le centre de gravité se situe dans le nord-est du Nigeria. Donc l'UIGS n'a pas forcément dit son dernier mot, dans le sens où ils peuvent aussi bénéficier d'éventuels soutiens en provenance du Nigeria, même si on a du mal encore à voir concrètement les manifestations de cette alliance opérationnelle.
Est-ce qu'on peut dire que ces groupes armés sont aussi puissants, plus puissants, moins puissants et aussi étendus, plus étendus, moins étendus qu'au moment du déclenchement de l'opération Serval en janvier 2013 ?
Alors ils sont très clairement à la fois plus étendus géographiquement, ils ont une influence beaucoup plus grande. Je pense que la distinction qui vient d'être faite par Yvan est fondamentale entre contrôle territorial et influence. Ils sont également plus puissants parce que leur regroupement, notamment au sein de la coalition appelée groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par l'ancien chef du groupe en sardine, qui s'appelle Yad Aghali, a permis de mutualiser certaines forces, d'une part, et d'autre part, l'affiliation de cet État islamique au Grand Sahara à la centrale État islamique a également permis de donner davantage d'audience, de visibilité à ces acteurs, parce qu'ils sont non seulement présents sur le terrain, mais ils sont également très présents dans une sphère, dans une sphère beaucoup plus virtuelle. Donc ils ont leurs agences de presse, ils ont leurs propres revues et ils s'expriment par la voix de ces canaux et c'est un témoignage de la façon dont ils ont gagné en puissance effectivement.
Et peut-être qu'une autre chose qu'il faut préciser tant qu'on est sur les cartes et un peu sur cette cartographie des groupes armés, c'est qu'il y a certes des groupes djihadistes qui opèrent au Sahel, et c'est d'eux dont on entend le plus parler, y compris en France, mais il y a aussi des groupes armés non djihadistes. On a une seconde carte qui montre là aussi leur zone d'influence, notamment au Mali. Et puis, complexité supplémentaire, il y a aussi des milices communautarisées au centre du Mali et des hommes armés pas toujours identifiés qui, eux, se livrent plutôt à des trafics ou des activités criminelles dans la région. Alors, le deuxième aspect de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au-delà de savoir s'il s'agit d'un échec militaire, est-ce que la France et ses partenaires européens n'ont pas commis des erreurs d'analyse dans son intervention dans la région ? Et une première erreur d'analyse, il me semble, concerne justement ces groupes armés. Vous l'aviez soulevé, Yvan Guichaoua, dès 2017, bon, peut-être même avant, mais en tout cas en 2017, vous l'aviez dit dans un entretien accordé à Mediapart, où vous expliquez que la France commettait l'erreur de se focaliser presque exclusivement sur la lutte antiterroriste en occultant les ressorts politiques de la crise et en refusant de voir en quelque sorte l'ancrage local ou ce qui peut faire l'ancrage local et peut-être d'une certaine manière la popularité quand même de certains de ces groupes armés sur le terrain dans leur communauté. Est-ce que vous pouvez nous rappeler voilà ce que vous un petit peu ce que vous vouliez dire par là, et est-ce que vous poseriez toujours ce diagnostic trois ans après, ou est-ce que la France a un petit peu corrigé le tir ?
Alors, je ne pense pas que la France ait corrigé le tir en matière d'appréciation de qui est l'ennemi, qui est le partenaire, qui est un allié et qui est, in fine, une cible légitime. Sur ce plan-là, je ne crois pas qu'il y ait eu une sorte de modification fondamentale des modalités d'appréhension de la situation de la part des autorités françaises. Sur le diagnostic lui-même et l'analyse qu'on peut faire, une dynamique des mouvements armés qui est effectivement tellement variée, même si parler d'ancrage local, ça ne veut pas dire nécessairement nier toute dimension transnationale à ces mouvements. Et c'est un petit peu l'équation et le cauchemar des analystes, qui est de lier un petit peu le local à l'international. Je parlais tout à l'heure de l'État islamique au Grand Sahara, qui est rattaché opérationnellement à la province de l'Ouest africaine de l'État islamique, dont le centre de gravité est dans le nord-est du Nigeria. Et puis, ces mouvements-là sont eux-mêmes en connexion avec l'État islamique central au Moyen-Orient, avec lequel se font tout un tas d'échanges, de conseils et aussi de... bon, peut-être pas d'armement ou d'hommes, mais en tout cas, il y a des informations qui circulent, il y a des choix stratégiques qui sont faits sur une dimension transnationale. Après, et donc cette dimension transnationale est un petit peu ce qui justifie l'intervention étrangère et la présence des forces françaises dans la zone, qui passent leur temps à répéter par la voix de Florence Parly ou de Jean-Yves Le Drian qu'on est en train de se battre au Sahel contre ceux qui ont commis des violences au Bataclan et contre les intérêts français ailleurs dans le monde. Après,
ce qui n'est pas tout à fait, voilà, sur le terrain, pas tout à fait vérifié, même si ces connexions existent, c'est un petit peu un raccourci quand même commode utilisé pour justifier l'intervention.
Oui, puisque au plan concret, opérationnel, il n'y a pas une attaque contre le territoire français qui était planifié depuis le Sahel. Il y a eu des attaques localement contre des intérêts étrangers occidentaux au Sahel commis par ces mouvements djihadistes, mais ces mouvements djihadistes-là n'ont pas envoyé des hommes se battre contre les intérêts français en France. La deuxième partie du raisonnement donc sur la dimension locale de ces mouvements, c'est que, en gros, et je l'ai dit dans un article publié récemment dans The Conversation, les djihadistes sont d'assez bons sociologues, c'est-à-dire ils sont capables de bien évaluer les failles sociologiques et politiques de l'environnement dans lequel ils opèrent et donc tirer bénéfice pour se créer des alliances dans certaines communautés.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, on a vu que à la frontière entre le Mali et le Niger, l'État islamique au Grand Sahara a profité d'un vivier de recrutement dans une communauté d'éleveurs qui, depuis des années, s'estimait marginalisée à la fois par l'État nigérien et aussi par les multiples mobilisations violentes de leur voisins éleveurs, Touareg, du côté malien. Donc, se sentant prises en étau, ces communautés-là ont finalement, en tout cas certains de leurs membres, ont pris cette cause pour l'État islamique au Grand Sahara pour, en gros, voilà, défendre leurs intérêts dans un espace devenu beaucoup plus concurrentiel pour eux et de plus en plus armé, surtout.
Vous vouliez ajouter quelque chose
Non, j'approuvais évidemment à ce que disait Yvan. Cette dimension, en effet, de capacité d'analyse sociologique se double, et c'est important de le dire, d'une grande capacité d'analyse politique. Et je pense, vous posez la question des erreurs d'analyse, je pense que l'une des erreurs d'analyse a été uniquement de considérer l'ennemi à travers son mode opératoire. C'est-à-dire que la qualification de terroriste qualifie une façon de combattre, en effet, en s'en prenant, en général, de manière aveugle, à la fois aux populations et aux représentants de l'État. Mais on a eu tendance, au départ, à mon avis, du côté de la France, à considérer qu'on avait affaire à une armée, si ce n'est de va-nu-pieds, en tout cas, d'hommes très peu sophistiqués, en termes tactiques, en termes stratégiques, en termes d'équipement également, et on a vu qu'au fil des années, tous ces moyens se sont au contraire affinés, mais surtout, on s'aperçoit qu'on a en face des interlocuteurs extrêmement politiques, et notamment, on en a pour preuve le fait que ce qui est communiqué aujourd'hui dans les déclarations de ces groupes, et notamment de l'État, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en appel à l'opinion publique française, mentionne ce qu'a indiqué Yvan, à savoir qu'il n'y a jamais eu d'attentat en provenance du Sahel, va même jusqu'à poser la question de savoir pourquoi investir autant d'argent, c'est-à-dire 1 milliard d'euros en 2020 quand même à peu près, alors qu'il y a du chômage en France. Donc on voit très bien qu'il y a des stratégies en face qui se doublent par ailleurs du fait que les cibles ne sont pas indiscriminées en fonction des groupes. Ces groupes recourent à des tactiques, à des méthodes très différentes, et notamment le groupe affilié à Al-Qaïda a choisi des cibles qui sont des cibles gouvernementales ou des cibles étrangères, militaires, et au contraire se posent en protecteurs de communautés ou de populations civiles.
Et de fait, quand effectivement la qualification exclusivement par le vocable de terroriste supposerait que ce soit des groupes qui s'entraînent exclusivement à des civils, ce qui n'est sur le terrain pas le cas.
Ça dépend des groupes. Hein. L'État islamique au Grand Sahara encore perpétré une attaque absolument atroce le 2 janvier au Niger, à Zaroumdareï et à Tchombangou.
Donc, oui, c'est aussi le cas, mais ce n'est pas exclusivement.
C'est aussi le cas, absolument.
Et est-ce que, pour terminer sur cette question des étiquettes, est-ce qu'on observe une circulation des combattants, puisque vous, Yvan, vous évoquiez la disparition de Ansarul. Si, c'était Ansarul. Ansarul Islam et son. Voilà. Et du coup, le fait que les combattants naviguent un peu d'un groupe à l'autre. Est-ce qu'il y a des circulations de combattants de groupes dits djihadistes à des groupes considérés comme non djihadistes ou inversement? Est-ce qu'on sait ça?
Si on s'en tient aux dynamiques récentes entre les mouvements djihadistes exclusivement, parce que depuis 2012, qui correspond au moment de l'occupation du monde du Mali par les mouvements djihadistes, alors que la rébellion avait été initiée par des non-djihadistes, là on a eu effectivement tout un tas de transhumance d'un groupe à l'autre de certains combattants. Et ce qu'on a vu plus récemment entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est effectivement des transferts de combattants liés à des enjeux très locaux, liés à des choix faits de cibler ou non les civils. Donc il y a eu en fait des débats politiques sur ce qui est une cible légitime entre ces différents mouvements, et ça a provoqué en fait des mouvements de transfert de combattants entre les deux principales entités djihadistes de la zone, et qui ont d'ailleurs en fait été une des étincelles provoquant la violence entre les deux mouvements djihadistes.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, et c'est peut-être la deuxième grande erreur d'analyse au-delà de cette question de comment on appréhende les groupes djihadistes, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les objectifs militaires français n'étaient pas adossés à des objectifs politiques clairs. Quels seraient concrètement des objectifs politiques clairs pour une politique française, militaire ou non, peut-être aussi diplomatique, etc., dans la région? En quelques mots, quelques phrases pour essayer de comprendre et de dessiner en creux ce qui aurait pu être réalisé de plus réaliste, pertinent d'après vous.
Mais l'objectif politique clair est de savoir quel projet on oppose justement à ces groupes qui, eux, sont relativement clairs justement avec le projet de société qu'ils promeuvent. On voit que la façon dont la France estime que l'objectif second de son intervention est de ramener l'État dans des différentes parties et du territoire et de l'administration qui ont été désertées par lui est difficilement tenable, dans la mesure où c'est précisément la remise en cause de cet État à laquelle on assiste, un État qui est perçu largement comme prédateur plutôt que protecteur, et un État qui est perçu comme ayant failli à de très nombreux égards en matière d'éducation. Ce n'est pas un hasard s'il y a des attaques des systèmes éducatifs, en matière de développement, bien sûr, en matière de démocratisation, en matière d'urbanisation. Il y a vraiment, dans ce qui se passe au Sahel, en réalité, des mouvements insurrectionnels de diverses sortes. Il y a les mouvements de type insurrectionnel djihadiste, on en a parlé. Il y a les mouvements insurrectionnels de type indépendantiste ou autonomiste, notamment au nord du Mali. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les mouvements insurrectionnels de type populaire qui se sont exprimés au Mali et qui ont abouti au renversement quand même du président élu. Ce qui renvoie, bien entendu, à la remise en cause de la gouvernance de cette équipe, mais également du projet porté auquel est très associée la France. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que proposer un autre modèle que celui qui est promu depuis les indépendances apparaît aussi comme quelque chose d'important. On arrive à la fin d'un cycle, à mon avis, de ce point de vue-là.
Dans un texte que vous avez récemment publié, une tribune publiée dans Le Monde, vous disiez que un objectif, au lieu de purement dire qu'on veut purement soit éliminer les groupes djihadistes, soit restaurer un État qui, comme vous le dites, est par ailleurs contesté, corrompu, pourrait être tout simplement entre guillemets de décider que l'objectif politique c'est protéger les civils de ces différents pays. Est-ce que ce serait...
Alors ça, c'est une idée effectivement à laquelle je tiens beaucoup, mais cet objectif doit être celui des États sahéliens eux-mêmes. Ce n'est pas à la France d'avoir pour mission de protéger ses populations. En revanche, c'est à mon avis à la France d'avoir pour objectif d'accompagner les États sahéliens dans les efforts qu'ils mettent en œuvre pour apporter une protection à ces populations. Et cette protection passe bien entendu par la protection de leur vie, puisqu'il faut toujours rappeler, ne cesser de rappeler que les premières victimes de ce conflit, de cette violence, sont les populations civiles, mais il y a également la question de la protection de leurs biens qui se pose, et je me situe là uniquement sur le domaine sécuritaire, mais en termes de projets d'avenir également, il y a très certainement quelque chose qui se joue, et c'est vrai que l'accompagnement qui est perçu localement par la France d'élites perçues comme étant en état ayant failli, apparaît comme problématique par rapport aux options qui ont été politiquement soutenues par la France.
Et protéger les civils, ça peut sembler un peu, simple comme ça à formuler, mais ça passe aussi par des choses comme, on en discutait un petit peu avant, le renforcement d'une chaîne pénale, d'une justice efficace par exemple, parce que ces civils, ils sont aussi parfois victimes d'exactions de la part des armées locales, des armées maliennes, burkinabées, qui sont supposés les protéger, et ces exactions parfois sans justifier quoi que ce soit, mais c'est aussi le fait d'armées locales qui sont un petit peu échaudées par le fait que dans ce combat contre les djihadistes ou d'autres groupes armés, parfois on arrête les gens et puis ils finissent toujours par être libérés, donc on a tendance à vouloir se faire justice soi-même, donc effectivement c'était pour exemplifier un peu le programme
de la
protection.
Cette question de la chaîne pénale très très rapidement est absolument fondamentale, c'est-à-dire, et elle fait partie de l'instrument sécuritaire. On ne voit l'instrument sécuritaire qu'à travers sa dimension militaire. Le rôle, effectivement, des policiers, des gendarmes, mais aussi des systèmes carcéraux est absolument central, parce qu'il ne s'agit pas seulement de neutraliser, donc d'éliminer un ennemi, mais aussi de démanteler ses réseaux. Donc, on avait beaucoup espéré lorsque le partenariat pour la paix et la stabilité au Sahel a été annoncé lors du sommet de Biarritz, parce qu'il s'agissait justement de renforcer cet aspect, mais malheureusement, on a poursuivi sur la voie principalement militaire.
Yvan Kishawa, sur cette notion d'objectif politique à des interventions françaises ou européennes dans la région.
Magali Bakayoko a pointé l'absence d'horizon politique très désirable et attractif pour les populations dans le cadre de la lutte antiterroriste. Moi, ce que je voudrais signifier, c'est que la lutte antiterroriste elle-même dégrade cet environnement politique. D'accord. On peut croire qu'on tape sur des gens qui sont unanimement considérés comme étant des méchants, et en fait non, on nie la dimension politique de ces mouvements-là, et en tapant dessus, on tape non seulement sur des gens qui ont des armes et qui portent atteinte aux intérêts internationaux et étatiques locaux, mais on porte aussi atteinte à des aspirations politiques de communautés qui ont parfois épousé partiellement au moins l'agenda djihadiste, parce qu'elles ont effectivement un agenda politique, des revendications à porter auprès de leurs États. Et la conduite donc de cette guerre-là, par les choix d'alliances qui sont faits, dégrade un peu plus, je pense, l'environnement politique et éloigne finalement l'horizon d'un possible rétablissement politique.
Le dernier aspect, c'est sa dimension collective, puisque la France n'est pas seule au Sahel. Elle intervient aux côtés d'une grande mission des Nations Unies qui s'appelle la MINUSMA. Il y a aussi des organisations internationales ou régionales, comme l'Union africaine, la CEDEAO, qui pourraient se saisir, qui se sont saisies en partie de ces questions. Quels ont été le rôle et l'impact de ces différentes institutions sur la situation au Sahel? Et est-ce qu'on peut, pour elles aussi, diagnostiquer une forme d'échec?
Je pense qu'il est très important d'aborder aussi sous cet angle-là, et notamment en France, où le débat a tendance à se focaliser, ce qui est normal hein, d'ailleurs, sur l'intervention de l'opération Barkhane. Mais interroger justement les modes de règlement des conflits qui ont été mobilisés par tous les acteurs que vous venez de citer pour faire face à cette crise sahélienne est absolument essentiel, parce qu'en réalité, on souligne les difficultés, si ce n'est l'échec de la France, mais en réalité, à mon avis, on se trouve vraiment face à une défaillance collective actuellement. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, que l'Union africaine n'a pas réussi à s'imposer comme un acteur majeur, malgré la mise en place depuis 2008 d'une architecture africaine de paix et de sécurité. Alors, elle a mis sur place, elle a déployé une mission qui s'appelle la MISAEL, mais elle n'a pas été en mesure de mobiliser son dispositif d'intervention, ni dans le cadre des sous-régions elles-mêmes, ni dans le cadre de sa force de réaction rapide qu'elle voulait tester justement dans l'environnement sahélien qui s'appelle la CARIC, ni dans son projet qui a été quand même annoncé depuis un an de déploiement d'une force de 3000 hommes supplémentaires. La CDEAO a joué un rôle plus important. Absolument, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui fait partie de cette architecture africaine de paix et de sécurité, a joué un rôle davantage actif, notamment d'un point de vue politique, à l'occasion des deux coups d'État, et en 2012, et là, effectivement, en 2020. Mais on voit très bien qu'on assiste aujourd'hui au Mali à une militarisation de l'appareil d'État contre lequel la CDEAO n'a pas les moyens ou pas la volonté de s'opposer. Pour ce qui est de la mission des Nations Unies, on voit très bien qu'en dépit de tous les efforts de réforme qui ont été tentés pour passer de ce qu'on appelait le maintien de la paix traditionnelle à des opérations de paix simplement intégrée et multidimensionnelle, on voit qu'on se heurte là aussi à une difficulté de mise en œuvre. Notamment, l'un des principaux mandats de la MINUSMA était d'accompagner la mise en œuvre de ce fameux accord de paix pour la paix et la réconciliation signé en 2015 au Mali. Sur la protection des civils, qui dans son mandat aussi dans le centre, on voit aussi les difficultés éprouvées. Et pour terminer, le fameux G5 Sahel qui a été créé, hein, justement, précisément pour faire face à cette crise à la fois en matière de sécurité mais aussi en matière de développement, les résultats ou la montée en puissance, comme il est aujourd'hui à la mode de le dire, se font attendre aussi. Donc pour moi, cette crise sahélienne pose la nécessité de repenser plus généralement les instruments internationaux de gestion des conflits en se référant sans doute aussi aux solutions qui sont, qu'on le veuille ou non, promues par les acteurs locaux, quand bien même elles ne correspondent pas au schéma qu'on privilégie généralement.
Est-ce que vous pensez par là à la fameuse question de dialoguer ou non avec les groupes djihadistes, qui est plutôt plébiscitée localement, mais qui a été une ligne rouge pendant longtemps pour les Français, par exemple ?
C'est bien sûr la première question. Ça fait partie, en effet, hein, des options qui sont quand même soutenues par certains acteurs internationaux. Hein, le secrétaire général des Nations Unies ou le commissaire à la paix de l'Union africaine se sont prononcés en faveur de négociations. Mais également, il y a des solutions plus locales, je pense, par exemple, et je ne dis pas que je suis en accord avec elles, au recours à des forces locales de sécurité davantage communautarisées. Ça ne correspond pas aux options que je privilégie, mais en tout cas, ça fait partie des options qui sont promues par certains États comme Burkina Faso.
D'accord. Yvan Guichaoua, peut-être sur la responsabilité aussi d'acteurs a priori très important, mais dont on n'entend pas tant que ça parler, qui sont en fait les chefs d'État et de gouvernement de la région. Dans un article que vous avez publié en 2020 dans la revue International Affairs, vous vous arrêtez un peu sur le, la position un peu ambivalente dans laquelle se trouvent ces dirigeants qui, à la fois, sont pris entre leurs partenaires internationaux, voilà, qui interviennent militairement, et leurs administrés, enfin leur base, les citoyens de leur pays qui ont plutôt eux des aspirations à la souveraineté, enfin on peut avoir un discours plus anti-intervention étrangère. Alors voilà, quelle est un peu leur position? Est-ce qu'ils ont fait partie du problème? Est-ce qu'ils font partie de la solution, ces chefs d'État locaux, enfin des cinq pays concernés?
Effectivement, les chefs d'État dont je parle dans le papier sont surtout ceux du G5 Sahel, chacun essayant de suivre une stratégie à la fois de maintien au pouvoir et qui requiert un minimum d'instruments de la part des citoyens, sans vouloir pour autant brûler les ponts avec disons, le parrainage français qui est militairement absolument essentiel pour leur survie politique également. Et une manière de présenter les choses, c'est de dire que la présence française au Sahel sous forme militaire est tellement importante pour la survie politique de ces chefs d'État-là qu'ils sont parfois tentés de préférer un soutien extérieur à la construction d'un consensus au plan interne. Donc, ils sont un petit peu pris dans cet étau-là et puis, voilà, ça a peut-être coupé sa place à Ibeka au Mali en août dernier, même s'il y avait d'autres d'éléments politiques internes qui se sont mêlés à l'initiative de coup d'État qui a finalement renversé, mais une partie de l'opposition qui s'est manifestée contre lui était aussi opposée à cette tutelle française sous laquelle lui se plaçait.
Et vous dites par ailleurs, pour peut-être conclure là-dessus, que le fait de certains de ces chefs d'État soient tentés de privilégier leur parrainage français, européen, etc., ça aboutit pour certains à des coups d'État, mais ça pourrait aboutir par ailleurs à des tentations peut-être autoritaires dans la région quand on veut voilà, se maintenir au pouvoir avec ce parrainage, ce patronage, mais éventuellement en se coupant de sa base, de ses citoyens. Écoutez, on va s'arrêter là. Il y aura encore certainement beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a déjà évoqué un certain nombre de sujets et de pistes intéressantes pour comprendre cet échec à la fois français, collectif, militaire, politique. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages et votre analyse. Pour le reste, rendez-vous sur le site de Mediapart pour lire nos articles consacrés au Sahel et dans le studio de Mediapart pour plus d'émissions et d'entretiens en vidéo.